9, 8, 7, 6, 5.
Very happy to see you.
Nous sommes sur France Culture pour parler de dernières nouvelles de l'univers.
Dernière nouvelle de l'univers, André Brahi.
Quelle est l'origine de la Terre? Quelle est l'origine des planètes? Quelle est l'origine du système solaire? En un mot, d'où venons-nous? Alors ça, c'est un très vieux problème qui a hanté beaucoup de nos ancêtres depuis des millénaires. J'avais eu la curiosité, il y a une vingtaine d'années, de lire un maximum d'articles sur le sujet depuis des siècles, et j'avais trouvé au moins 450 théories différentes de l'origine du système solaire. C'était à une époque où nous avions beaucoup de théories et très peu d'observations. La situation a totalement changé aujourd'hui. Nous avons exploré le système solaire, nous avons trouvé beaucoup de choses, nous avons accumulé des observations, ce qui fait que la plupart de ces théories initiales sont à mettre au panier. Pourtant, il fallait le faire. C'était commencer l'exploration. Alors, ce très vieux problème que les cracks se sont posés, on s'est posé avant eux, c'est la question création ou éternité. Est-ce que le monde est là depuis toujours? Il n'y a pas eu de début, il n'y aura pas de fin, et ce que nous vivons n'est qu'une succession de transformations? Ou bien est-ce que le monde a été créé un jour? Alors les uns disent, mais attendez, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de début, pas de fin. Les autres disent, mais on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Et finalement, nous scientifiques, quand on se pose le problème de l'origine, on ne crée pas quelque chose à partir de rien. Et quand on parle d'origine d'un objet, en fait, on vous parle de la fin d'une histoire. Si vous-même, cher auditeur, vous vous demandez quelle est mon origine, eh bien, votre origine est l'aboutissement d'une histoire d'amour entre vos parents, qui a donné vous-même. Donc c'est, non pas la fin, mais l'aboutissement d'une histoire qui donne vous-même. Et donc, la question que nous posons, c'est comment on est arrivé à la situation qui, aujourd'hui, la Terre, les planètes et la vie sur Terre. Comment s'y prendre? Alors d'abord, voyons quels ont été tous les efforts de nos ancêtres. Il y a 4 ou 5 000 ans, et même encore aujourd'hui, les hommes vivaient dans des tribus. Et quand vous étudiez ces tribus, vous constatez que chaque tribu a un mythe. Vous allez en Océanie, les Polynésiens ont des mythes, très poétiques d'ailleurs. Les populations anciennes du Japon, de l'Inde, les ancêtres des Vikings, nos ancêtres à nous, les tribus en Afrique, elles ont des mythes. Et on peut se demander, mais à quoi servent ces mythes? À l'époque, je m'étais beaucoup intéressé à ces mythes. Je vous avoue même que j'avais commencé à écrire un livre sur le sujet. J'avais écrit à peu près 1800 pages. Et comme c'était un petit peu technique, je me suis dit, si je le vends, je le vendrai en pharmacie, rayon somnifère. Donc, je ne l'ai jamais publié. Mais j'étais fasciné par toutes ces histoires qu'ont inventées les hommes. Et je me suis demandé, mais à quoi ça sert? Pourquoi ils ont fait ça? Et en fait, j'ai compris qu'un mythe, c'est une manière de souder la tribu. Je veux dire par là que quand une tribu a un mythe, elle vous raconte que l'histoire du monde, c'est Vénus qui a rencontré Mars, que sais-je, enfin, c'est des dieux qui se sont rencontrés, etc. Et les ancêtres racontent l'histoire aux plus jeunes, qui eux-mêmes le racontent aux suivants, etc. Et je dirais un mythe, c'est en quelque sorte le ciment de la société. C'est-à-dire si quelqu'un dans la tribu dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, votre histoire, elle n'est pas crédible. Comment vous pouvez dire cela ?» Eh bien, soit il est mis à mort, soit il est chassé, parce qu'en quelque sorte, il menace la vie et l'identité de la tribu. Chacun se reconnaît dans le mythe. Si je devais faire une comparaison, je ne sais pas si elle est très bonne, dans les sociétés humaines, les gens ont envie de se reconnaître dans le mythe. Regardez ces spectateurs de matchs de football, il y en a qui sont habillés en bleu et en rouge, et les supporters de l'équipe bleue, ils ont envie de taper sur les supporters de l'équipe rouge, et réciproquement. Comme si chacun ne vivait que par le groupe, en quelque sorte. Autrement dit, dans l'histoire des hommes, ils ont inventé des mythes sur leur origine dans chaque tribu. Un petit peu plus tard, apparaissent les religions monothéistes. Alors, si vous êtes chrétien, vous dites, moi je connais l'histoire du monde, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes musulman, vous dites, je connais l'histoire du monde, c'est écrit dans le Coran. Vous êtes juif, vous dites, je connais l'histoire du monde, c'est écrit dans la Torah. Autrement dit, chacune des religions a prétendu raconter l'histoire du monde et a prétendu détenir la vérité. Un petit peu plus tard, les scientifiques se sont emparés du sujet. Mais regardez, Pendant plusieurs siècles, les deux plus grandes puissances mondiales étaient la France et l'Angleterre. Alors, il y avait une théorie française de la formation des planètes et une théorie anglaise. Les Anglais racontaient qu'une étoile était passée très près du Soleil, et passant très près du Soleil, par effet de marée, avait arraché au Soleil un filament de matière. Et que ce filament de matière arraché s'était refroidi, et en se refroidissant, avait donné les planètes que nous connaissons, Mars, Jupiter, la Terre, etc. Ça, c'était la théorie anglaise. Et les Français, eux, disaient, pas du tout, une nébulosité s'est formée, au centre de la nébulosité, eh bien, on a formé l'étoile Soleil, et à la périphérie de la nébulosité s'est formé un disque au sein duquel sont nées les planètes. Donc les Français et les Anglais se sont disputés pendant des siècles sur ce sujet. Et nous n'avons eu la réponse qu'en 1953. Et je voudrais quand même vous le signaler, en 1953, nous avons compris que dans cette histoire, c'est les Anglais qui avaient tort, hein, il faut le dire quand même. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Les Anglais prétendant que les planètes étant un morceau du Soleil qui avait été arraché par effet de marée, ça veut dire que les planètes seraient nées d'un milieu très chaud. Les Français prétendaient que les planètes étaient un morceau de la partie extérieure de la nébuleuse, donc c'est un milieu très froid. Donc pour savoir si le début était très chaud ou très froid, eh bien, vous ouvrez le robinet chez vous, vous faites couler l'eau du robinet, et dans l'eau du robinet, vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène, H2O. Eh bien, vous séparez l'oxygène et l'hydrogène, ça va vous demander un peu d'effort, hein. Et vous comptez les atomes d'hydrogène. Et l'hydrogène a un isotope qu'on appelle le deutérium, c'est avec ça qu'on fait l'eau lourde, hein. Eh bien, le deutérium est détruit dans les étoiles. Donc, si l'hydrogène de l'eau du robinet contient un atome de deutérium pour 2 millions d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire très peu de deutérium, ça veut dire que nos origines sont issues d'une étoile. C'est les Anglais qui ont raison. Et si, au contraire, vous trouvez deux atomes de deutérium pour 500 000 atomes d'hydrogène, ça veut dire que le milieu était froid, c'est les Français qui avaient raison. Eh bien, faites ceci ce soir, ça va vous demander un peu d'énergie, un peu de temps, et vous verrez qu'il y avait raison, c'était pas les Anglais. Donc vous voyez, et alors un peu plus tard, entre 1945 et 1990, les deux plus grandes puissances mondiales étaient les États-Unis et l'Union soviétique. Alors il y avait une théorie américaine de la formation des planètes et une théorie soviétique. Les deux vous disaient que des corps se forment, des germes apparaissent, on forme des corps de plus en plus gros, qu'on appelle des planétésimaux, et ces corps se cognent. Quand vous cognez durement, ça casse, c'est un divorce. Quand vous cognez doucement, ça s'agglomère, c'est un mariage. Et les uns disaient, il y en a un qui prend le pouvoir, il mange tout le monde, il devient plus gros, ça forme une planète. Et les autres disaient, non, tout le monde croit à la même vitesse, il n'y a pas une tête qui dépasse, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça croit à la même vitesse. Quant à savoir quelle est la vraie méthode, ben, j'ai donné le sujet à certains de mes étudiants, et il semble bien que les planètes se soient formées très rapidement. Et il fallait qu'elles se forment rapidement, parce que les étoiles se forment violemment. Si on traîne trop, il n'y a plus de matériaux formés les planètes après. Donc vous voyez, c'est un vieux problème, ça a duré très longtemps. On s'est beaucoup disputé, polémiqué. C'était un sujet extrêmement chaud. Alors, quand vous reprenez les écrits d'anciens, il y avait un moine irlandais, par exemple, dans les années 1500 et quelques, 1450 plutôt, qui vous disait que la Terre était formée le 23 octobre, moins 4004, à l'aube. Il avait compté les générations de l'Ancien Testament, il aboutit à la date de naissance de la Terre. Un petit peu plus tard, Kepler, qui a été l'étudiant de Tycho Brahe, qui a essayé de comprendre les observations de Tycho Brahe, qu'il avait fait à Uraniborg, l'observatoire au Danemark, eh bien, Kepler avait l'ambition de géométriser l'univers. Ambition qu'avaient voulu remplir les Grecs, les Grecs de la Grèce antique, qui n'étaient pas arrivés. C'est peut-être Einstein qui lui a réussi à géométriser l'univers. Et Kepler avait imaginé les cinq solides parfaits, que sont le cube, le tétraèdre, l'icosaèdre, enfin, je ne vais pas citer tout cela. Et il considérait les sphères circonscrites et inscrites dans les cinq solides parfaits. Et il trouvait que la distance relative des planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc., c'est-à-dire des six planètes connues à l'époque, eh bien, correspondait au cercle qui inscrivait et qui était inscrit et circonscrit dans les solides parfaits, géométrisant l'univers. Mais en fait, le premier qui vraiment démarre le problème, c'est Descartes. Nous sommes là en 1600 et quelques, 1637, 1644, et Descartes imagine que le monde est fait de tourbillons. Alors, il nous explique que nous sommes sur Terre, et que nous marchons à la surface de la Terre, parce que ces tourbillons nous plaquent à la surface. Nous ne les sentons pas, ne comprenez pas, mais ils nous plaquent à la surface. Et il explique que la Lune tourne autour de la Terre, parce que ces tourbillons qui entourent la Terre, eh bien, la Lune flotte sur ces tourbillons qui entourent la Terre. Et il nous explique qu'il y a des grands tourbillons au centre desquels se forment les étoiles, et qu'il y a des petits tourbillons au centre desquels se forment les planètes. Vous savez que Voltaire, à un moment donné dans sa vie, a aimé l'astronomie. Voltaire était tombé amoureux de la marquise du Châtelet. La marquise aimait l'astronomie. Donc, pendant les 15 ans que Voltaire a vécu avec la marquise, il a aimé l'astronomie. Et il a critiqué Descartes. Il trouvait que cette théorie de Tourillon ne marchait pas très bien. Et par contre, il a défendu Newton, qui, à la même époque, avait sorti la théorie de la gravitation. Et évidemment, en face de la gravitation, la théorie de Descartes ne tient pas. Mais on doit reconnaître à Descartes le mérite suivant. Il est le premier qui a imaginé qu'une théorie unique allait expliquer la formation de la Terre. C'est la première fois. Et à peu près à la même époque, Buffon, qui n'était pas un astronome, qui était naturaliste, lui a imaginé une théorie où il imaginait qu'une comète s'était approchée du Soleil, et en s'approchant du Soleil, il avait arraché un filament de matière. Là, nous sommes au XVIIe siècle, on ne sait pas ce que c'est qu'une comète, Buffon imagine qu'elles sont très massives, ce qui n'est pas le cas, et les Anglais ont repris cette théorie sous forme d'une étoile qui aurait survolé le Soleil. Et donc, vous aviez deux théories à cette époque-là, Descartes et Buffon. On est donc là à la fin du XVIIe siècle. Descartes forme ça par une théorie unique d'un tourbillon, Buffon par un phénomène catastrophique d'une comète qui passe près du Soleil. Comme souvent en science, vous avez une formation douce et une formation par catastrophe. Deux théories qui ont été reprises par la suite par les Français et les Anglais, comme je viens de vous le dire. Alors un petit peu plus tard, celui qui vraiment fait un grand pas, c'est Laplace. Vous connaissez la fameuse histoire du marquis de Laplace qui avait été reçu par Napoléon et qui a présenté à l'empereur sa théorie. Laplace a inventé la théorie d'une nébuleuse, qui est la nébuleuse protosolaire. Et quand il présente sa théorie à l'empereur, Napoléon lui dit « Monsieur le marquis, je ne vois pas beaucoup Dieu dans votre théorie. » Et Laplace a répondu « Sire, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. » Vous connaissez, c'est bien connu. Et Laplace était d'ailleurs un homme très intelligent, qui en plus était accommodé de tous les régimes. Il était bien placé sous l'Ancien Régime, en bonne position au moment où la Révolution française est très à gauche, très proche de l'empereur et familier de Louis XVIII. Vous voyez donc que c'était quelqu'un dont le retournement de veste était très rapide, mais en fait c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est lui le père des théories de la nébuleuse. Alors, maintenant, à l'époque contemporaine, comment faisons-nous pour connaître l'origine du système solaire? Et c'est là qu'en comprenant cette approche, nous comprenons ce qu'est la démarche scientifique. La démarche scientifique repose sur deux piliers. J'ai toujours cette image que pour marcher, il faut deux jambes. Quels sont ces deux piliers? Eh bien, d'une part, on observe le monde, nous, astronomes, et d'autre part, on interprète. En d'autres termes, d'un côté, un scientifique, il va soit observer le monde, soit faire des expériences. Un physicien, un chimiste dans son laboratoire, fait des expériences. Un physicien, il prend un morceau de matière, il le chauffe, il le refroidit, il le coupe en deux, il bombarde, il le tord, il en déduit des lois qu'ensuite on fait apprendre par cœur aux élèves. Donc, il expérimente. Chimiste, pareil. Un astronome ou géophysicien, lui, ne peut pas expérimenter, on ne peut pas couper le Soleil en deux, tordre la galaxie et bombarder la Terre, ça ne serait pas gentil. Et donc, on observe. Et évidemment, on sait interpréter. Donc, interpréter sans observer, c'est très dangereux. Parce qu'on peut dire n'importe quoi. Et entre quelque sorte, les plus grands massacres qu'on ait commis dans l'humanité, c'est cette démarche. Dieu grec, qui inventant le raisonnement rationnel, néglige l'observation. Platon, c'est dommage qu'il n'écoute pas France Culture en ce moment, parce que j'ai envie de lui dire des choses pas gentilles. Platon nous disait que c'est pas la peine d'observer le ciel, parce que les dieux sont imparfaits, donc on verra des imperfections, et que sa pensée pure l'emportait sur tout. Et ça c'est la cause de tous les massacres. Et par massacre, j'entends l'inquisition des chrétiens, les fondamentalistes musulmans, les camps nazis ou les camps sibériens. C'est-à-dire des gens qui ont une théorie, mais qu'ils ne confrontent pas au monde réel, et qui assassinent leurs semblables sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Autrement dit, vous comprenez bien qu'une théorie doit être confortée, doit être vérifiée, doit être testée par une observation ou par une expérience. Et donc c'est un aller-retour permanent entre une observation qu'on essaie de comprendre, une théorie qu'on émet, et ensuite on retourne pour essayer de trouver une nouvelle observation qui va infirmer ou confirmer la théorie en question. Et donc la démarche aujourd'hui des astronomes, que j'ai envie d'appeler les archéologues du ciel, puisqu'ils vont chercher des traces du passé dans le ciel, eh bien, ils doivent distinguer ce qui est un témoignage des conditions initiales, de la manière dont ça a démarré, et le distinguer de l'évolution. La Terre est un corps très actif, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, il y a une dérive des continents, il y a une érosion, une activité. Toutes les traces primitives ont été effacées. Pas sur Terre qu'on va trouver les traces de l'origine, il faut aller ailleurs. Et donc, trouver l'effet d'observation, c'est pas simple. Et de temps en temps, on se trompe. On prend pour une condition initiale ce qui est en fait simplement une condition de l'évolution. Et donc, vous voyez bien qu'en accumulant les observations, on va avoir un ensemble d'observations pour lequel il faut trouver la théorie. Et vous voyez bien dans quelle situation on est en tant que scientifique. Quand il y a très peu d'observations, bon, bah, on n'est pas très contraint. On peut imaginer toutes les théories qu'on puisse trouver. Et les théoriciens ne manquent pas d'imagination. Tant moi-même théoricien, je peux le dire. Mais souvent, ce qu'ils disent n'est pas très conforme à la réalité. Mais quand on a beaucoup, beaucoup de contraintes, alors là, c'est très difficile. Parce que comme l'a dit un de mes collègues, la plus belle théorie du monde peut être tuée par un affreux fait d'observation. Et vous savez, en science, il suffit d'une, comment dirais-je, observation qui va à l'encontre d'une théorie pour qu'elle soit mise au panier. Et donc c'est pour ça que la science progresse par vérifications successives. Il y a des choses qui sont acquises, mais il faut toujours garder beaucoup de prudence. Et nous avons une chance extraordinaire en ce début de XXIe siècle, c'est que trouver la trace de nos origines, ce n'est pas uniquement trouver des traces dans le système solaire, c'est regarder ce qui se passe ailleurs, et voir la formation des autres étoiles, voir des planètes extrasolaires, et explorer le système solaire, aller au-delà de la Terre, nous donne beaucoup, beaucoup d'observations. Et en même temps, il y a beaucoup de fausses pistes. Je vais vous citer une fausse piste. Il y a une loi qui a eu quelques célébrités il y a quelques temps, c'est la fameuse loi de Bud-Titus. Titus était un traducteur qui traduisait les livres ayant du succès, et un livre a été écrit par un Français qui donnait des connaissances astronomiques des années 1780 à peu près, il est traduit en allemand. Et Titus est un traducteur étonnant, parce que en gros, ce qui lui plaisait pas, il traduisait pas, et il rajoutait des paragraphes de son cru. Alors, quand on fait ça dans l'édition moderne, le traducteur, il met note du traducteur. Lui, non, il mettait pas du traducteur, il traduisait ce qui lui plaisait. Et en traduisant le livre d'un Français en allemand, il a rajouté un paragraphe dans lequel il dit que les planètes suivent une progression géométrique dans la distance au Soleil. Et ça, c'est un outil important pour essayer de comprendre l'origine, en quelque sorte. Et puis, il a dit ça. Sans, vous voyez, il ne voulait pas de reconnaissance. Il était le traducteur obscur. Il avait même à peine son nom. Et puis, un nommé Bode, 20 ans plus tard, arrive. Et il émet une théorie sur laquelle il fait une publicité énorme en disant que les planètes suivent une progression géométrique par rapport au Soleil. Et il a copié, mot par mot, les mots de Titus. Comme je dis à mes étudiants en plaisantant, est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce qu'il l'a fait exprès? Et je leur pose la question suivante. Imaginez que vous preniez des singes dactylographes, c'est-à-dire des singes tapant au hasard sur une machine à écrire. Combien faut-il de singes pour que l'un d'entre eux produise l'œuvre complète de Shakespeare? Eh bien, la réponse, vous savez, c'est qu'il en faut beaucoup. Donc je pense que c'est pas par hasard que Bode a émis la même hypothèse, il a trouvé Titus. Et cette loi de Bode-Titus, qui a été longtemps un des supports pour comprendre l'origine du système solaire, est en fait une fausse loi. Il y a une planète manquante entre Mars et Jupiter, ça ne marche pas pour Pluton. Il y a autant d'exceptions que de confirmations. Et nous savons qu'en science, les lois physiques ne sont pas comme les lois de la grammaire. Les lois de grammaire souffrent des exceptions, ce que ne souffrent pas les lois de la science. Comment former la Terre et les planètes? Après des millénaires de discussions, de polémiques, de théories, de très belles histoires inventées, aujourd'hui, nous avons dans les mains une démarche qui consiste d'une part à observer, à chercher les traces aux origines, et d'autre part à interpréter. Alors commençons par les faits d'observation incontournables. C'est-à-dire, aucune des théories que nous pouvons émettre ne saurait ignorer l'un de ces faits. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, parce que là, nous y serions encore dans 2 ans, parce que faut comprendre que c'est l'œuvre de centaines, sinon de milliers de scientifiques pendant des dizaines d'années. Mais voyons quelles sont les traces du début. Alors, première difficulté, la Terre a évolué. C'est-à-dire que sur Terre, nous n'avons aucune trace de tout début. Il n'y a aucune roche plus vieille qu'environ 3,9 milliards d'années à peu près. Tout a été effacé. Et donc on voit bien que si on veut des conditions initiales, il faut aller trouver un corps tout petit, un corps mort, un corps qui n'a pas évolué depuis son origine. Ce n'est pas la Terre qui va nous donner ça. Mais essayons de voir à gauche et à droite. Alors premier point très étonnant, c'est que les planètes autour du Soleil forment un système plat. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, toutes ces planètes tournent dans le même plan. Dans le même plan, sur des cercles et dans la même direction. Ceci, immédiatement, élimine une théorie qui avait été envisagée à une certaine époque, à savoir que le Soleil se promenant dans la galaxie capturait des planètes sur son voyage, un peu comme vous mangez, vous attrapez des cacahuètes ou des fruits sur un arbre au cours du voyage. Ça marche pas, parce que si vous capturez une planète sur la route, le plan des orbites des planètes sera très différent, elles seront dans tous les sens, ça sera un système à trois dimensions. Donc ça veut dire déjà que le fait que le CM soit plat, c'est que ce qui a été un prélude aux planètes que nous connaissons a été un disque plat. L'autre point très important, c'est le fait que le Soleil tourne sur lui-même très lentement. Pour faire un tour sur lui-même, le Soleil met en gros 27 jours. Enfin, il ne tourne pas à la même vitesse à l'équateur et aux zones de latitude plus élevées, mais c'est plus d'une vingtaine de jours. C'est assez lent. Alors que des planètes comme Jupiter ont une quantité de rotation importante. Alors les scientifiques emploient un mot un petit peu technique qui s'appelle le moment cinétique. Je vais le remplacer par le mot quantité de rotation. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de quantité de rotation en vous, vous tournez très vite. Et quand il n'y a pas beaucoup de quantité de rotation, vous tournez lentement. Donc en gros, quand vous regardez le système solaire, 99% de la masse est dans le Soleil, moins d'1% dans les planètes, et 99% de la quantité de rotation est dans les planètes. Pourquoi cette répartition bizarre ? Donc la rotation lente du Soleil, on doit en tenir compte. Autre point, c'est une certaine similarité entre d'une part les systèmes de planètes, donc ces 8 planètes autour du Soleil qui tournent autour du Soleil, qui sont dans un plan, et les systèmes de satellites. Prenez les satellites de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, Neptune, voilà des systèmes aussi où les grande partie de ces satellites sont dans le même plan. Est-ce que ces systèmes se sont formés de la même manière ? Nous en reparlerons. L'autre point, c'est l'âge. Je vous ai dit qu'on avait imaginé une Terre qui avait 6000 ans, en comptant les générations d'Ancien Testament. Je vous ai dit que Buffon, calculant le temps de refroidissement d'un boulet, avait extrapolé la Terre et trouvé 70 000 ans. Je vous dis qu'au XIXe siècle, Lord Kelvin, qui était un très grand thermodynamicien, avait essayé de calculer le temps que mettait la Terre pour se refroidir. Pourquoi se refroidir ? Parce qu'on a des témoignages sur lesquels la Lune dans le passé, donc la Terre aussi, était très chaude, donc il a fait un certain temps. Et Lord Kelvin a trouvé qu'il fallait 200 millions d'années pour refroidir la Terre. Alors Darwin n'était pas d'accord du tout. Il a dit, moi, en 200 millions d'années, je n'ai pas le temps de faire évoluer les espèces. Il me faut plus de temps. Alors on a cherché. Et puis on a trouvé au début du XXe siècle la radioactivité qui permet de dater. Et c'est en 1953 qu'un Australien, qui s'appelait Patterson, a trouvé l'âge de la Terre. L'âge de la Terre, c'est 4,55 milliards d'années. Tout a commencé il y a 4,55 milliards d'années. Cette découverte est assez amusante parce que cet Australien, bon, je lui en veux pas, il est très gentil, je dirais, entre nous, hein, il a travaillé comme un cochon. Il a fait plein d'erreurs. Seulement, sa chance, c'est qu'il a fait tellement d'erreurs, il a fait un nombre pair d'erreurs. C'est-à-dire chaque erreur a compensé les autres. Hein. Et comme je dis à mes étudiants le jour de l'examen, faites plein d'erreurs, mais arrangez-vous, faire un nombre pair d'erreurs, jamais un nombre impair, bien entendu. Et donc, ça énerve tous les géophysiciens qui ont recommencé le même travail, qui, eux, ont fait un travail correct, et qui ont trouvé le même chiffre, mais avec un travail très correct. Donc depuis 1953, nous savons que la Terre et les planètes et le Soleil et tout le système solaire a 4,55 milliards d'années. Au passage, je vous signale que l'expansion de l'univers a commencé il y a 13,82 milliards d'années. Et le système solaire n'a commencé qu'il y a 4,55 milliards d'années. Donc il a fallu du temps. Je vous ai déjà dit que nous étions les enfants des étoiles, nous sommes aussi les enfants du temps. Pour démarrer tout ça, il a fallu former suffisamment d'éléments, il a fallu que quelques générations d'étoiles nous fournissent des éléments comme l'azote, comme l'oxygène, comme le chlore, comme le magnésium, le fer, etc. pour qu'on ait le matériau pour former la Terre, en quelque sorte. Donc on a l'âge. Un phénomène majeur, qui a probablement été le phénomène majeur dans le système solaire, c'est les collisions. Quand vous regardez les corps du système solaire, ils sont cratérisés. Alors, il y a très peu de cratères sur Terre. Il y a des volcans, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a très peu de cratères d'impact, parce que l'érosion sur Terre et l'activité géologique sur Terre effacent ce genre de choses. Mais regardez la Lune, regardez les astéroïdes, regardez Mercure, regardez Mars, regardez tous les corps du système solaire, les satellites de Saturne, de Jupiter, etc. Ils sont criblés de cratères. Hélas, les hommes sur Terre ont appris ce que c'était les cratères après la guerre de 14. Après les bombardements que vous aviez, les champs de bataille étaient couverts de cratères. Mais ils n'ont compris ça qu'au XXe siècle. Quand on observait les cratères de la Lune au XIXe siècle, les astronomes disaient que c'est des cratères volcaniques. Les géologues disaient non, pas du tout, ça ne ressemble pas aux volcans qu'on a sur Terre. Et l'argument des astronomes, c'était de dire si c'était des cratères d'impact, les bolides venant de toutes les directions, les cratères devraient être de forme ovale. Ça dépend, quand vous coupez un cylindre par une surface plane, c'est un ovale. Mais les astronomes à l'époque n'avaient pas compris la physique d'une collision. Regardez le bombardement des champs de bataille de la guerre de 14-18, les cratères sont ronds. C'est-à-dire qu'en gros, l'obus pénètre sous le sol, explose et fait un cratère circulaire avec plein de retombées secondaires. Et donc, en gros, les cratères lunaires, ils sont des cratères d'impact et tous les corps du système solaire sont des cratères d'impact. Donc, on comprend que ce que nous considérions comme une catastrophe, une collision pareille, en fait, ce sont les conditions de notre naissance, que les collisions ont joué un rôle essentiel. Donc la cratérisation, la collision, c'est grâce à ça qu'on est là. Sans ces collisions, la Terre n'existerait pas, nous n'existerions pas. Et je vous rappelle que certains imaginent que les dinosaures ont disparu parce qu'ils ont été tués par, justement, un bolide énorme qui est arrivé, qui a fait un nuage de poussière, qui a coupé la lumière du soleil, etc. Certains considèrent ça comme une catastrophe, mais sans ça, on ne serait pas là. 99% des espèces animales sont mortes. Il y a un petit animal d'un centimètre qui a survécu, c'est notre ancêtre. Donc, merci les collisions. Donc, c'est un phénomène essentiel. Autre phénomène, la composition chimique. Quand vous regardez la composition des planètes, de Mercure, de Vénus, de la Terre, de Jupiter, de Saturne, vous constatez qu'il y a des éléments lourds, c'est-à-dire en gros du fer, du silicium, du carbone, etc., près du Soleil, et que loin du Soleil, il y a des éléments légers. La densité des planètes comme Mercure, Vénus, la Terre est de l'ordre 2, 3, 4, 5, etc. C'est relativement lourd. Alors que la densité de Jupiter ou de Saturne est très faible. C'est aux alentours de 1. Même Saturne, c'est inférieur à 1. C'est-à-dire Saturne est tellement à une densité si faible que Saturne flotterait dans votre baignoire. Bon, il faudrait une baignoire un peu grande, d'accord. Mais ça flotterait. Donc on voit bien que, en gros, on a les éléments lourds près du Soleil, les éléments légers loin du Soleil. Donc ça donne l'idée qu'au début, il faisait très chaud. Et alors, puisqu'il faisait chaud, les éléments plus légers se sont évadés, se sont échappés. Et on a formé ce qu'on pouvait avec ce qui restait, quand beaucoup de choses sont parties. Alors vous avez, comment dirais-je, d'autres choses, les astéroïdes. Les astéroïdes sont des petits corps qui font des dimensions qui vont de 500 mètres, 1 km, 20 km, 100 km, quelques dizaines de kilomètres. Et ce sont en gros nos ancêtres. C'est-à-dire que dans le système solaire sont apparus des corps de cette dimension qui, en se cognant mutuellement, forment des planètes plus grosses. Et je compare les astéroïdes aux briques dans un chantier d'un maçon. Quand un maçon construit une maison, il apporte avec son camion des pierres ou des briques. Et puis il assemble les briques pour faire le mur de la maison. Eh bien, c'est avec des briques comme ça qu'on a formé les planètes. Mais les maçons qui ont formé les planètes, ils n'ont pas été soigneux. Ils n'ont pas nettoyé le sentier quand ils sont repartis. Donc il reste plein de briques dans le système solaire qui n'ont pas été utilisées pour former les planètes. Ce sont les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes, je dirais, sont les briques du chaud. On est près du Soleil, c'est des éléments réfractaires. Il y a du fer, du nickel, etc. Et les comètes sont faites d'éléments volatiles. Des glaces d'eau, des glaces d'ammoniac, des glaces de méthane, etc. Et donc, ces briques du froid et ces briques du chaud sont dans le système solaire. C'est le matériau avec lequel on forme les planètes, mais qui, celui-là, n'a pas été utilisé. Mais ce sont en gros nos grands-pères, nos grands-mères. C'est des choses comme ça qui nous ont formés. Et donc, alors vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est les météorites. Les météorites qui tombent du ciel, vous savez qu'on a mis longtemps à accepter cette idée. Les gens disaient, attendez, les cailloux, c'est par terre qu'on les trouve, c'est pas dans le ciel. Et c'est seulement au début du 19e siècle que, observant dans un village de Normandie une chute de météorites, les villageois l'ont signalé, et que Napoléon a fait envoyer des membres de l'Académie des sciences de Paris qui sont venus et qui ont ramassé ces cailloux en vue, effectivement, l'ont analysé et tout ça, et on a compris qu'effectivement, il y avait une chute de météorites. D'ailleurs, au passage, je vous signale que la Terre est sans cesse bombardée. Chaque jour, nous avons des milliers de tonnes de matériaux qui tombent sur Terre. Seulement, nous sommes protégés. L'atmosphère terrestre qui nous protège fait qu'un petit caillou qui arrive sur Terre, il frotte. Puisqu'il frotte, il chauffe. Puisqu'il chauffe, il brûle. Et il est détruit avant même d'arriver au sol. Ce qu'on appelle les étoiles filantes. C'est-à-dire ces traces qu'on voit dans le ciel, ce sont ces météorites qui nous bombardent sans arrêt, mais qui n'atteignent jamais le sol. Et quand le caillou est un peu plus gros, il peut survivre. Il peut atteindre la Terre. Mais quand il atteint la Terre est couverte d'océans, de montagnes, de déserts. Donc la probabilité qu'il touche un être vivant, elle est tellement faible que sur les sens historiques, personne n'a été tué par une météorite. Mais l'essentiel de la surface de la Terre est couverte d'océans. Ça tombe au fond de l'océan, très bien. Et dans l'histoire humaine, nous avons une chute en Sibérie, il n'y a pas très longtemps, au début de 2013, qui a été observée, mais il n'y a pas eu de victime. Il y a eu quelques glaces qui ont éclaté. Une vache, une fois, a été tuée par une météorite, la pauvre, etc. Une dame aussi, en Égypte, avait été effleurée par une météorite. Enfin, sa cuisse avait été légèrement effleurée. La photographie est sympathique parce que la dame a une cuisse sympathique. Donc, mais vous voyez, il n'y a pas eu de victime, en quelque sorte. Mais vous savez que les Gaulois avaient peur que le ciel ne tombe sur la tête. Les Gaulois avaient raison de penser que le ciel ne tombait sur la tête. Ils avaient tort d'avoir peur. Le bombardement est incessant, mais la vie d'un homme est tellement courte que la chance d'avoir une météorite sur la figure est extrêmement faible. Au passage, d'ailleurs, je vous signale à ceux de nos auditeurs qui seraient très amoureux, une idée de cadeau je vous donne. C'est que vous savez, quand on aime une dame, on lui offre un diamant, on lui offre un bijou. Bon, très bien, j'ai envie de dire c'est banal. Mais le cadeau le plus cher que vous pouvez offrir, c'est un morceau de météorite martienne. C'est pas très joli, c'est tout noir, mais il n'y a pas plus cher. Hein. Et la dame qui reçoit un tel cadeau, elle sera convaincue de votre amour très profond. Hein. Donc voilà, je vous donne cette idée pour la suite. Et vous avez un peu l'histoire du système solaire qui est racontée dedans. Donc vous voyez, nous avons accumulé des observations. Alors maintenant, il faut interpréter. Alors pour cela, nous avons un scénario. Et c'est une pièce de théâtre en 6 actes. Voici comment s'est formé le système solaire. Tous les scientifiques sont d'accord sur ce scénario, sur ces étapes. Nous sommes en désaccord sur le détail, mais nous sommes en accord sur les grandes lignes. Alors attention, majorité ne veut pas dire vérité. Peut-être qu'on se trompe tous. Mais c'est pour l'instant la meilleure interprétation que nous ayons de l'ensemble des observations que nous avons accumulées. L'exploration du système solaire, l'observation des planètes extrasolaires, la naissance des étoiles, tout ça a rajouté des éléments. Alors, première étape du scénario, on forme une étoile, l'étoile Soleil. C'est un morceau de matière interstellaire qui se rassemble sur elle-même et l'objet s'effondre sur lui-même par la simple gravitation. S'effondrant sur lui-même, la densité augmente, la température augmente, la pression augmente. Et à un moment donné, au centre de l'étoile, l'objet devient si chaud qu'on atteint des millions de degrés et que les réactions thermonucléaires s'allument. La contraction est stoppée et l'étoile commence sa vie. Retenez une chose de cette chute, c'est que la chute d'un objet sur lui-même, ça dégage beaucoup d'énergie. Quand vous mettez un lac en montagne, vous faites couler l'eau, avec ça on fait de l'électricité. Donc la chute d'un objet fait beaucoup d'énergie. Donc au début, la formation du soleil, l'effondrement du soleil, a dégagé une énergie considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faisait très chaud très près. Puisqu'il faisait très chaud, les éléments les plus légers, que sont l'hydrogène et l'hélium, qui, je vous le rappelle, composent 99% de l'univers, ils sont chassés, ils sont partis. Il ne reste plus que les éléments les plus lourds près du soleil. J'ai envie de donner une image. Quand vous aurez écouté cette émission, ce soir, vous ferez une soupe. Pour faire une soupe, on met une casserole d'eau, on met un peu de sel et de poivre. Et puis au moment où vous allumez le gaz, quelqu'un téléphone. « Ah, qui c'est qui me téléphone? J'allais me mettre à table. » Vous allez répondre, c'est votre meilleur ami. Et vous restez 1h30 au téléphone. Quand vous revenez dans la cuisine, toute l'eau s'est évaporée. Il ne reste plus que le sel et le poivre. Hein. Et ben c'est comme ça que la Terre a été formée. Ça s'est été formé une fois que tout est parti. Hein, donc vous comprenez que l'étoile Soleil s'effondre, que très près, il ne reste plus que quelques éléments un peu plus lourds, que très loin, par contre, il reste presque tout. Et à la périphérie de l'étoile, il reste un disque, et dans ce disque se forment les planètes. Eh bien, dans ce disque, il y a 5 étapes. Donc, premier acte, c'est en forme l'étoile Soleil. Deuxième acte, vous avez un disque de gaz. Puisqu'il fait très chaud, nous savons tous que les 3 états de la matière, le gaz, liquide et solide, quand il fait chaud, c'est du gaz. Donc on a un disque de gaz. Et le frottement du gaz sur lui-même, eh bien, aplatit le disque en question. C'est comme ça qu'on a formé un disque. Dans ce disque de gaz, il y a des réactions chimiques. Très près du soleil, des éléments réfractaires se forment. Très loin du soleil, des glaces se forment. Et donc des grains apparaissent, dont la composition chimique dépend de la distance au soleil. Donc au disque de gaz succède un disque de grains. Ah, vous direz, j'ai compris. Bah, les grains grossissent, ça donne la Terre. Pas du tout. Parce qu'il faudrait, pour grossir la Terre comme ça, un temps supérieur à l'âge de l'univers. Ça ne marche pas. Alors ces grains, ce disque de grains, a des instabilités locales. Le petit calcul est facile, on prend un petit calcul, on déplace les grains, on regarde si c'est stable ou pas, et on trouve des instabilités qui ont une dimension de 500 mètres à 1 km. Et bien c'est la formation des planétésimaux, c'est-à-dire des corps de 500 mètres à 1 km qui tournent autour du Soleil. Attention qu'on n'appelle pas des planétoïdes, parce que œide en grec, ça veut dire qu'il ressemble à, donc ça ne ressemble pas à une planète, c'est planétésimaux. Certains vont me dire ça sonne trop anglais, non, je dirais c'est du latin. Hein. Donc des planétésimaux qui tournent autour du Soleil. Alors ces planétésimaux se cognent. Quand ils se cognent violemment, ils cassent, c'est un divorce. Quand ils se cognent doucement, ils s'embrassent, c'est un mariage. Donc sa succession de divorces et mariages forme ce qu'on appelle des embryons. Un embryon, c'est quoi? C'est un corps qui fait entre 500 km, 1000 km de dimension. Et ensuite, ces embryons tournent autour du Soleil et vont former les planètes que nous connaissons. Il y a une petite difficulté, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais vous avez compris qu'après l'étoile Soleil, on forme successivement un disque de gaz, suivi d'un disque de grains, suivi d'un disque de planétésimaux, suivi d'un disque d'embryons, et finalement, un disque de planètes. Et donc, ces planètes commencent leur vie, et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne restent pas forcément au même endroit. Il y a 2 phénomènes qui vont jouer un rôle important. c'est que ces planètes se perturbent mutuellement par la gravitation. Ces planètes tournent autour du Soleil, et vous avez d'une part un phénomène qui est l'effet de marée, que nous connaissons bien au bord des océans, la mer se retire ou autre, qui vont changer la distance des satellites, des planètes, etc. Et notre phénomène qui s'appelle les résonances, et ce jeu des marées des résonances va peut-être modifier la position et le mouvement des planètes. Et vous comprenez que c'est ça qui rend notre étude extrêmement difficile, c'est que non seulement les corps sont bombardés en efface qui est au début, non seulement les corps évoluent, mais en plus leurs positions peuvent bouger. Et d'une certaine manière, le système solaire évacue, efface tout ce qui était les conditions initiales, d'où la difficulté. Vous comprenez pourquoi on a mis 6000 ans pour accumuler toutes ces traces. Mais on y est quand même arrivé. Et maintenant que nous avons compris ce scénario, un certain nombre de problèmes se posent dans le détail. Eh bien, les problèmes, c'est... Mais comment la vie est apparue? Pourquoi ces planètes sont aussi diverses? Pourquoi il y a de la vie sur Terre et est-ce qu'il y en aurait ailleurs? Est-ce qu'après tout, il y a des planètes qui sont formées de la même manière autour d'une autre étoile? Et vous voyez bien qu'il va y avoir des planètes comme Jupiter ou Saturne qui sont formées pour l'essentiel hydrogène et d'hélium. Donc il n'y a pas de sol solide, c'est une atmosphère. Mais il y a d'immenses cortèges de satellites aux alentours, nous en reparlerons. Et puis il y a des planètes comme Mars, Jupiter, Vénus, qui ont un sol solide. On peut marcher à la surface. Et sur Vénus, la température est de 400 degrés, ce que personnellement je supporte assez mal. La pression est 100 atmosphères, on est aplati comme une crêpe. Et une vraie crêpe, hein, pas comme ce qu'on fait à Montparnasse, comme ce qu'on fait à Brest. Et en gros, vous voyez bien que dans le système solaire, ces conditions initiales qu'on est sur les planètes ont conduit des objets d'une grande diversité. À nouveau, la leçon de l'univers, c'est une grande diversité et une grande richesse. Et finalement, quand on regarde bien, la nature a beaucoup plus d'imagination que les plus brillants des théoriciens, et pourquoi nous ne manquons pas de théoriciens brillants. Mais c'est pour ça que la nature est si passionnante. I can give you some comment in that regard. Alors nous pouvons nous poser la question, a-t-on compris aujourd'hui comment la Terre et les planètes ont été formées? Nous avons vu que cette formation a abouti après un processus où on a eu successivement un disque de gaz, puis de grains, puis de planétésimaux, puis d'embryons et puis de planètes. Il faut remarquer une première chose, c'est que ce processus est extrêmement rapide. L'âge du système solaire, je vous le rappelle, est de 4,55 milliards d'années. Eh bien, la succession de ces cinq disques, elle ne dure que quelques centaines de milliers d'années à quelques millions d'années. Ça peut vous paraître très long, mais par rapport à l'âge du système solaire, c'est très court. Donc, c'est un processus très rapide et pour lequel la plupart des processus, des phénomènes ont été effacés depuis, d'où la difficulté. Alors, j'aimerais vous montrer combien il reste encore des questions ouvertes. Une des questions, c'est comment s'est formée la Lune? C'est notre voisin le plus proche. Nous avons beaucoup de points d'interrogation. Une autre, c'est de vous dire que nous avons compris depuis peu de temps que si vous avez le bonheur d'écouter aujourd'hui France Culture, peut-être le malheur de m'entendre, je ne sais pas, eh bien c'est à cause de Jupiter. Sans la planète Jupiter, la Terre ne serait jamais devenue ce qu'elle est, et sans la planète Jupiter, la vie ne serait pas apparue sur Terre. Reprenons cela. Un premier processus compliqué, difficile à comprendre, et fondamental dans l'ensemble de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'accrétion. Accrétion, attention, ça s'écrit avec deux C. Je dis ça parce qu'un jour, j'avais fait un cours à des étudiants qui avaient écrit ça, agression. Donc, ce n'est pas un G, c'est un C. Accrétion, ça veut dire on se rassemble, on fusionne ensemble, etc. C'est un processus général dans l'univers. Ça marche pour les étoiles, pour les galaxies. C'est-à-dire, quand deux corps se rencontrent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous comprenons très bien que s'ils se cognent très durement, ils se cassent. Mais s'ils se cognent doucement, est-ce qu'ils vont rebondir? Ou est-ce qu'ils vont fusionner? Faut-il mettre de la colle pour qu'ils fusionnent? Ou est-ce que le simple choc y arrive? C'est très compliqué à étudier. Beaucoup de personnes étudient en laboratoire. Et regardez pour le comprendre. Quand deux voitures se heurtent à 2 km/h, elles rebondissent l'une sur l'autre, ce qu'on appelle une collision élastique. Mais quand un bateau heurte un rocher, ça fait un trou dans la coque, ce qu'on appelle une collision inélastique. Donc vous voyez, rien que sur Terre, on a déjà quelques questions qui sont posées. Donc l'accrétion, c'est un phénomène très délicat, très compliqué, très difficile, et sur lequel il reste encore beaucoup de questions posées. Un autre exemple, nous avons à portée de main un laboratoire dans lequel se déroulent des phénomènes finalement pas très différents de ce que nous essayons de comprendre quand on a la formation des planètes. Je pense aux anneaux des planètes. Anneaux de Jupiter, anneaux de Saturne, anneaux d'Uranus, anneaux de Neptune. Ce sont des systèmes plats, dans le plan équatorial de la planète, dans lequel vous n'avez pas de gros satellites, parce que les effets de marée interdisent la formation d'un satellite. Il y a donc un disque continu de matière. Et au sein de ces anneaux se déroulent des mécanismes qu'on imagine avoir joué un rôle au début de la formation des planètes. Et là, nous avons des problèmes. Un mécanisme que je vais vous citer, qui m'a beaucoup surpris à l'époque, quand nous en avons pris conscience, c'est que dans un anneau de planète, quand vous mettez un petit satellite, un gros peut pas exister, mais un petit peut exister, mettez un petit satellite dans un anneau, ils vont se repousser. Moi, quand j'étais petit à l'école, on m'a appris que la force de gravitation était une force d'attraction. Et nous constatons que la force d'attraction, dans ce cas-là, devient une force de répulsion. Je veux dire par là que lorsque vous mettez en jeu l'attraction de la planète Saturne, par exemple, au centre, les perturbations gravitationnelles des différents corps, ce qu'on appelle les résonances, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des commensurabilités dans le mouvement, les collisions sur lesquelles on perd l'énergie, quand vous mettez tous ces phénomènes en jeu, les corps se repoussent. C'est-à-dire qu'un satellite qui va être situé à l'extérieur va repousser un anneau de particules vers l'intérieur. Et si un autre satellite situé à l'intérieur, il va le repousser vers l'extérieur. En d'autres termes, le satellite sera confiné. Donc ces phénomènes de confinement et de répulsion sont très difficiles à comprendre. Nous avons quelques théories, quelques approches, mais nous avons encore beaucoup de questions. Et pour vous montrer que ce n'est pas une simple curiosité d'astronome pour lequel il serait inutile de passer du temps ou de l'argent, c'est un phénomène fondamental pour la Terre. Actuellement, nous nous posons un problème de l'énergie sur Terre. Il est quand même stupide de brûler du pétrole ou du charbon qui non seulement pollue, mais en plus ont mis des centaines de millions d'années pour s'accumuler et qu'on brûle en une fraction de seconde. On a envie de résoudre le problème. Et nous savons tous qu'une solution à ce problème serait de réaliser sur Terre la fusion, comme dans le Soleil. Rassembler les atomes d'hydrogène pour faire un atome d'hélium. Et en plus, il n'y a pas le problème de la fission, qui, elle, a de la radioactivité à long terme, etc. Donc on aurait une production d'énergie sans pollution. Ça serait merveilleux. Alors pour ça, il y a un projet très ambitieux qui actuellement est développé dans le sud de la France, à Cadarache, près de Marseille, où la France a emporté le marché, en gros ça se passe chez nous, et les financements sont japonais, chinois, américains, européens, tous les pays s'émettent, et on voudrait confiner le matériau, et le confiner tellement qu'on atteigne les pressions, les températures, allumant les réactions thermonucléaires. Eh bien, quand vous essayez de confiner le matériau dans cette expérience en sud de la France, c'est confiné par le champ magnétique. Et les équations qui décrivent ce phénomène sont ce qu'on appelle les équations de Fokker-Planck, du nom des physiciens qui les ont écrites au début du XXe siècle. Ces équations, ce n'est pas les résoudre. Donc il y a quelques milliers de physiciens sur Terre qui essaient de trouver des approximations, des conditions pour les résoudre. Eh bien, dites-vous que dans les anneaux des planètes, parce que les anneaux de Neptune, mais aussi les anneaux de Saturne, on a un phénomène de confinement. Cette fois-ci, ce n'est pas le champ magnétique qui joue un rôle. Ce sont les satellites qui, par ces phénomènes de répulsion et d'interaction, va confiner le matériau. Eh bien, quand vous écrivez les équations du phénomène, vous avez une équation de Fokker-Planck. Alors attention, les paramètres ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on va résoudre le problème de l'énergie sur Terre en allant voir Saturne ou Neptune. Je suis en train de vous dire que la physique est universelle. Et donc, c'est la compréhension de ces phénomènes qui nous permet de mieux comprendre nos origines, d'une part, et d'autre part, peut-être, de résoudre des problèmes sur Terre. Mais ils sont généraux. Mais alors venons-en à deux des grands problèmes qui se posent sur la formation. La Lune d'abord. Alors la Lune, vous allez me dire, c'est notre voisine, on la voit depuis que l'homme est sur Terre, on a été sur place, on a rapporté des échantillons sur Terre, et donc nous avons tout ce qu'il faut pour comprendre la formation de la Lune. Eh bien dites-vous que la Lune est peut-être le corps sur lequel on a le moins compris sa formation. Et pourquoi? Parce qu'on a accumulé tellement d'observations, tellement de données, que les théories qu'on a sont souvent contradictoires. Alors, former la Lune, il y a pour cela trois manières possibles et imaginables. Pas d'autres. Seulement trois. Je me souviens, il y a quelques années, c'était les années 1980, eh bien, j'avais été à un colloque du côté d'Hawaï où on parlait de la formation de la Lune. Eh bien, les organisateurs n'ont pas pu trouver un conférencier faisant la synthèse de tout ça. Ils ont donc trouvé trois conférenciers qui chacun expliquait l'une des trois théories et qui chacun disait que les deux autres étaient stupides et la sienne intéressante. Et donc, comme moi je suis bon public, les trois m'ont convaincu et j'étais surtout convaincu qu'on n'avait rien compris. Alors, maintenant, comment s'y prendre ? Eh bien, pour former la Lune, il y a trois manières. La première manière serait de prendre un morceau de terre et d'en faire la Lune. La deuxième manière serait de capturer un corps et d'en faire un satellite. La troisième manière serait de former deux jumeaux à côté l'un de l'autre au même moment. Voyons les difficultés. La théorie d'un morceau de terre qui aurait formé la Lune, un peu comme on prend une côte d'Adam pour former Ève, hein, c'est une... on a raconté cette histoire ailleurs, eh bien, cette théorie-là a été développée par Darwin. Pas Darwin, le papa qui faisait évoluer les espèces, mais le fils qui était astronome. Et Darwin disait que la Terre tournait sur elle-même trop vite. Tournant trop vite, elle était instable. Étant instable, un morceau de Terre s'était évadé. Et en s'évadant, ça donnait la Lune. Et il allait même plus loin. Il disait, je sais à quel endroit la Lune est partie. Je cherche un trou sur la Terre. Et le trou, il l'avait trouvé, c'est le Pacifique. Dans le Pacifique, il y a un gros trou. La Lune part de cet endroit-là. Bon, ben, on sait aujourd'hui qu'on ne forme pas le Pacifique comme ça. Il y a une autre méthode. Et tous les enfants qui ont joué avec une fronde, quand ils étaient petits, ils savent très bien que quand vous lancez une fronde, elle part dans le plan de rotation de la fronde. Elle ne part pas ailleurs. Or, la Lune est inclinée de 5 degrés sur le plan équatorial de la Terre. Donc, si la Lune s'était échappée de la Terre, elle serait exactement dans le plan équatorial de la Terre. Elle ne pourrait pas être inclinée de 5 degrés. Sinon, il faudrait dépenser trop d'énergie. Ça ne marche pas. Donc, former la Lune par une côte de la Terre, ça ne va pas. Alors, essayons autre chose. Alors, l'autre théorie, c'est capturer la Lune. Alors, capturer la Lune, on fait venir un corps de l'infini. Ce corps s'approche de la Terre, on le capture. Mais oui, il y a un problème. C'est que l'énergie de deux corps, elle soit positive, soit négative. Si elle est positive, les corps se séparent, s'évadent. Si elle est négative, ils se capturent. Donc si un corps vient de l'infini, l'énergie totale est positive, il est dévié par le passage de la Terre, elle est toujours positive. Donc on ne peut pas former un couple quand il y a seulement deux corps. Et comme je dis à mes étudiants, le seul moyen de former un couple, ou de le détruire, c'est de faire intervenir un troisième corps. Enfin, je parle d'astronomie, bien entendu, et pas d'autres domaines. Donc, imaginons qu'il y a eu un autre satellite autour de la Terre, que cette Lune se soit approchée de la Terre et échangé l'énergie avec le satellite, qu'elle se soit mise en place et qu'elle ait chassé le satellite précédent. Ça, c'est possible. Mais on n'a plus les traces de ce phénomène. Et s'il n'y a pas d'autre satellite, s'il n'y a pas un troisième corps, on pourrait imaginer que par effet de marée, la Lune frôlant la Terre est un petit peu déformée, en étant déformée, perd de l'énergie, que du coup, elle est capturée ainsi. Ce n'est pas impossible, mais difficile. Alors, il y a une troisième méthode. C'est former deux jumeaux côte à côte. Mais là, il y a une difficulté. C'est que si on forme deux jumeaux côte à côte, ils doivent avoir la même composition chimique. Or, la Lune et la Terre n'ont pas la même composition chimique. Donc, elles semblent avoir été formées à deux endroits différents. Alors maintenant, il y a une quatrième théorie qui, en fait, est une variante de la troisième, qui a été trouvée par des collègues américains. Et comme les Américains savent très bien faire leur publicité, tout le monde croit qu'on a trouvé la solution. En fait, il y a des problèmes. Et ce qu'ils ont imaginé, c'est qu'un corps de la taille de Mars avait heurté la Terre, et en heurtant la Terre, avait cassé un morceau de la croûte terrestre et du manteau terrestre. Ça avait fait du débris autour de la Terre. Ce débris s'était rassemblé pour former plus tard la Lune. Pourquoi un corps de la taille de Mars ? Parce que si le corps est plus gros, il casse la Terre en morceaux, ça ne va pas. Et si le corps est plus petit, l'effet n'est pas suffisant. Donc il faut choisir la bonne masse, la bonne vitesse, la bonne direction d'arrivée, le bon angle pour faire l'effet. Mais maintenant, si on casse un morceau de Terre, ça fera plutôt un anneau. Est-ce que ça va former une Lune plus tard ? On peut y arriver. Et donc, beaucoup de livres vous expliquent, ça y est, on a compris, c'est une collision. Rien n'est moins sûr. Et donc, vous voyez très bien que les différentes théories qu'on a se heurtent à de grands points d'interrogation. Parce que les faits sont très... Il faut en tenir compte. On ne peut pas négliger les faits. Donc, on continue. Et l'origine de la Lune, probablement que c'est le signe numéro 2. Ce n'est pas un morceau de Terre qui est parti. Ce n'est pas une formation en tant que jumeau. C'est probablement une capture. Mais quel a été le mécanisme de la capture ? Je crois que nous avons encore beaucoup de questions et beaucoup de choses à faire. Donc déjà, vous voyez que notre corps le plus voisin... Alors attention, ne tirez pas de ce que je viens de vous dire la conclusion qu'il faut couper les crédits de la recherche parce que plus ils observent, moins ils comprennent. Attention, vous comprenez fort bien que la connaissance, ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on résout le problème, c'est en avançant. Et la Lune, vous savez bien qu'il faut absolument y retourner. On a encore plein d'inconnus, il y a plein de choses à étudier. Dites-vous que la Terre, ça fait des millénaires qu'on l'étudie et nous connaissons encore très mal les zones polaires, l'Antarctique, le fond des océans. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, si nous voulons comprendre vraiment les origines, il y a encore beaucoup d'analyses à faire que nous n'avons pas encore fait. Donc, c'est un problème. Mais venons-en à une de nos dernières découvertes sur la formation de la Terre et l'apparition de la vie, c'est Jupiter. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai travaillé sur la formation de la Terre et je pensais naïvement, comme tous mes collègues, qu'on formait les petits avant les grands. C'est-à-dire qu'en gros, on formait d'abord la Terre et Vénus et puis les gros, Saturne et Jupiter, sont formés après, sous l'argument tout simple que pour accumuler beaucoup de matériaux, ça prend plus de temps que pour en accumuler pas beaucoup. Eh bien, je m'étais trompé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on forme les gros avant les petits. Et pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que près du Soleil, là où il faisait si chaud, il n'y a que des débris. Donc à chaque fois qu'un germe commence à apparaître, à chaque fois qu'on commence à former un planétésimal, un embryon, etc., bon, il y a l'embryon qui se forme, puis qui va cogner avec des autres pour grossir. Mais du côté de Jupiter et de Saturne, là-bas, il fait froid. Dès qu'un embryon se forme, et il fait froid, il y a du gaz. L'hydrogène et les germes ne sont pas partis. Dès qu'un embryon se forme, je ne veux pas faire le geste à la radio, mais enfin, il avale tout ce qui est autour. Et donc, du coup, tout le gaz qui est présent est capturé. Et donc, ce petit embryon, il s'entoure de gaz et ça forme déjà un gros corps. Et donc, le gros Jupiter s'est formé bien avant la Terre et avant Vénus. Et là, il joue un rôle fondamental. Nous allons voir pourquoi. C'est que former un disque d'embryon, c'est-à-dire de corps qui a environ 1000 km de diamètre et tout, c'est pas trop difficile. Et j'arrivais dans mes modèles assez facilement à former une quarantaine de corps, qui étaient un peu plus petits que la Lune. Mais j'arrivais pas à former 8 planètes comme la Terre, Jupiter, etc. Pourquoi ? Parce que si je prenais des corps qui sont des orbites circulaires sur des cercles, eh bien les collisions, la vitesse relative de cercle, c'est très faible. Les collisions étaient très douces, donc c'était très favorable pour ramasser du matériau. Mais je balayais pas un très grand volume. Et pour balayer un grand volume, il fallait que je fasse des orbites elliptiques qui balayent. Mais une orbite elliptique, les vitesses relatives des corps qui se cognent sont grandes. Et donc, au lieu de s'embrasser, on se met une gifle et on se casse. Et donc, du coup, je cassais plus que je n'accumulais. Et donc, je n'arrivais pas à monter en taille. Eh bien, dites-vous que Jupiter, étant présent, étant formé avant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a agité tous ces planétésimaux qui se trouvaient aux âges de la Terre pour les apporter sur Terre, mais pas trop violemment. Et regardez la situation. Entre Jupiter et Mars, il y a des astéroïdes. Il y a tout le matériau qu'il faut pour former une planète. À part que ces astéroïdes sont tellement agités, quand ils cognent durement, ça fait plein de cratères, ils se cassent, on n'a pas formé une planète. Regardez Mars. Mars, c'est tout petit. Je dis souvent de Mars, ne le dites pas à mes collègues qui travaillent sur la planète, mais Mars, c'est comme ces gens qui ont été un peu loupés à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. Donc c'est un tout petit machin. Ça a été un peu manqué, Mars, en quelque sorte. Je vous prie de m'excuser de l'emploi de mots un peu vulgaires. Et donc Mars est petit. Et la Terre et Vénus, par contre, sont beaucoup plus complets. Et donc Jupiter a apporté suffisamment de matériaux pour que la planète soit assez grosse, mais pas trop violemment pour que ça ne casse pas. Et c'est comme ça que la Terre a la bonne masse, a la bonne gravité, a tout ce qu'il faut pour que plus tard la vie apparaisse dessus. Et donc Jupiter a aidé à la formation de la Terre, à la formation de la planète Terre. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. C'est que, en gros, quand on fait différents modèles, on voit qu'il y a des résonances entre les planètes. Qu'est-ce qu'une résonance ? Tous les enfants de 7 ans savent ce que c'est. Moi, quand j'avais 7 ans, je poussais ma cousine sur une balançoire. Et j'avais compris que si je poussais au hasard, ça faisait pas grand-chose. Et que si je poussais en cadence, l'amplitude de la balançoire devenait très grande, ma cousine hurlait et mes parents disaient « arrête de faire l'imbécile ». Donc à 7 ans, on a compris que quand on est en résonance, il y a l'amplitude qui croît. D'ailleurs, vous écoutez en ce moment France Culture, c'est un phénomène de résonance dans votre poste de radio qui permet d'amplifier le signal qui est reçu et qui est beaucoup plus faible. Donc la résonance, c'est un phénomène commun. Et donc, dites-vous qu'au début, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune qui se sont formés avant. Ces planètes rentrent en résonance. Rentrant en résonance, elles balayent un volume plus grand. Grande amplitude. Et du coup, il y a une pagaille dans le système solaire incroyable. Et tous ces petits corps planétésimaux qui sont encore là vont bombarder l'ensemble du système solaire. Quand on fait la simulation sur ordinateur, on se rend compte que ce phénomène a eu lieu 800 millions d'années après la formation du système solaire. Le système solaire ayant 4,55 milliards d'années, c'était il y a 3,8 milliards d'années. Vous allez me dire, mais attendez, 3,8 milliards d'années, c'est le moment où la vie apparaît sur Terre. Et s'il y a un bombardement comme ça, ça va détruire la vie. Eh bien, si c'était le contraire, ce bombardement a existé. On a la preuve sur la Lune. La Lune est bombardée, on a calculé l'âge, on a pris des échantillons. Oui, c'est 800 millions d'années après le début. Donc si la Lune était bombardée, la Terre l'était aussi. Et dans ces conditions, eh bien, nous avons eu un bombardement intense à ce moment-là. Et c'est peut-être ça qui a créé la vie. Comment ? La croûte terrestre était très épaisse. Le bombardement a fracturé la croûte terrestre, cassé en morceaux. Et a permis à de la matière première de sortir, de l'azote, de l'oxygène, etc. Et en même temps, ce bombardement a apporté de la matière première. Et certains pensent même que l'eau des océans est venue des comètes, etc. Et donc Jupiter forme la Terre, et Jupiter apporte les conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre. Merci Jupiter. Donc avoir donné à cette planète le nom du roi des dieux, quand même c'était sympathique. Donc vous voyez, tout ce que nous trouvons, quand nous avançons petit à petit pour comprendre ce qui se passe. Et nous comprenons, là aussi je vous parlais de l'origine de la Lune, une découverte récente, c'est que la Lune s'est formée quelque part entre la moitié de la distance Terre-Vénus et la moitié de la distance Terre-Mars. La composition des isotopes, qui sont la manière dont les atomes, le nombre de protons, de neutrons, et je ne veux pas rentrer dans trop de techniques, se forment, et de la Lune nous indique la quantité de l'oxygène 16, de l'oxygène 18 sur la Lune, nous montre que la Lune n'est pas formée au niveau de Pluton, de Neptune, etc., est formée relativement près. Mais comment tout ça s'est réuni, on ne sait pas encore. Mais vous voyez bien que chaque année, chaque lustre, chaque dizaine d'années, on progresse, on apprend quelque chose de nouveau, et sur l'histoire de nos origines, vraiment, quelle explosion de connaissances depuis une vingtaine d'années, et l'histoire ne fait que commencer en trouvant d'autres planètes autour d'autres étoiles. Nous allons apprendre plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'aventure va commencer. Et rêvons pendant quelques secondes. Un jour, nous irons rendre visite à ces planètes, mais ça ne sera peut-être que dans 400 ou 500 ans, donc je ne suis pas sûr de vous en parler sur France Culture.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
C'était Dernières Nouvelles de l'Univers par André Brahic. À la technique, Pierre Mine. À la réalisation, Angélique Thibault.